Nous allons débuter cette dernière partie de la journée, cette table ronde, avec le plaisir de recevoir M. Jean-Paul Delahaye, inspecteur général de l'éducation nationale, ancien directeur général de l'enseignement scolaire entre 2012 et 2013, je crois, et donc 14, et donc acteur central aussi de la loi de la refondation de l'école de la République. Aussi auteur d'ouvrages comme notamment Le Collège unique, pourquoi faire, en 2006, qui a été publié en 2006, qui reste, je crois, d'une grande actualité dans ce temps de débat sur le collège, et d'autres ouvrages aussi. Et donc auteur du rapport Grande pauvreté et réussite scolaire, qui vient d'être remis il n'y a pas longtemps, au mois de mai, à la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Un rapport qui, je cite, ne se veut et n'est pas un rapport de plus, mais une invitation à la mobilisation solidaire. D'ailleurs, le sous-titre, c'est le choix de la solidarité pour la réussite de tous. Et puis aussi Jean-Yves Rochex, donc, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8, Seine-Saint-Denis, directeur du laboratoire CIRCEF ESCOL, rédacteur en chef aussi de la Revue française de pédagogie, et qui travaille depuis longtemps sur les processus de co-construction des inégalités sociales et sexuées d'accès au savoir et à la formation, du point de vue, j'ai envie de dire, des pratiques, des politiques aussi, et de beaucoup d'autres choses. Il a publié notamment, entre autres, un livre important, qui est « La construction des inégalités scolaires » avec Jacques Rinon, qui est paru en 2011, et des ouvrages aussi, dont certains que nous avons pu réaliser ensemble, sur les politiques d'éducation prioritaire, notamment dans une perspective comparative européenne. Donc voilà, donc on va poursuivre la journée avec l'idée de faire un pas de côté un peu, peut-être, pour éclairer différemment les enjeux des PEDT, dont on a parlé depuis ce matin, les articuler avec la question des enjeux sociaux et éducatifs globaux aujourd'hui. Alors je voudrais partir, pour ce faire, de donner, dans une très brève introduction, deux constats, qui sont des constats que vous portez dès l'introduction du... Donc deux constats, sans boucle, qui sont avancés dès l'introduction du rapport. Deux constats, j'ai envie de dire, accablants. Le premier, qui renvoie à l'ampleur de la pauvreté en France, sixième puissance économique mondiale, comme vous le rappelez, 1,2 million d'enfants, soit un enfant sur 10, sont des enfants de familles pauvres. Et j'ai envie d'ajouter aussi, encore, ça dépend des indicateurs qui sont utilisés, mais bon, c'est peut-être un autre débat. Et de l'autre côté aussi, en plus, l'ampleur des inégalités sociales en matière de scolarité. Cette situation-là sur la pauvreté, ces chiffres sur la pauvreté qu'on a donnés, est d'autant plus préoccupante que la France est l'un des pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Il y a notamment, selon on essaie, des indicateurs statistiques, l'enquête PISA, etc., qui montrent des choses comme ça. Voilà. Et pour lancer le débat, donc, je voudrais aussi citer encore deux passages très clairs du rapport, et je le crois là aussi vraiment très important, enfin moi ce sont des passages qui m'ont vraiment paru très importants, qui introduisent les analyses de ce rapport et qui posent d'une certaine manière l'enjeu, le principe, si ce n'est le principe politique ou philosophique de base qui me semble imprégner le rapport dans son ensemble, mais sur lequel j'aimerais bien aussi qu'on puisse discuter. Donc je vais citer les deux passages in extenso, ça me paraît pertinent. Première citation, donc la mission, c'est vraiment au tout départ du rapport, la mission Grande pauvreté et réussite scolaire qui nous a été confiée offre donc l'opportunité de rappeler pourquoi il y a nécessité de refonder l'école et pour qui. En réalité, c'est la même question, savoir pourquoi refonder, assurer la réussite de tous, c'est aussi déterminer pour qui refonder. Si refonder l'école, c'est corriger les inégalités au sein du système éducatif, alors refonder l'école, c'est faire réussir les plus pauvres. Et puis vous ajoutez, la refondation concerne bien sûr tous les élèves, il n'est pas question de réduire les écarts en baissant le niveau des meilleurs. Refonder l'école, ce n'est pas niveler par le bas, c'est élever le niveau de tous, en centrant l'attention du système éducatif en priorité en direction des plus fragiles, ceux dont les destins scolaires sont liés à l'origine sociale. Voilà. Un principe donc sur lequel, je pense, on reviendra, en ce qu'il met d'emblée l'accent sur une question que l'on ne peut pas oublier, et que nous tenons, en tout cas, au sein de l'Observatoire Pollock, c'est une question que l'on maintient ouverte tout le temps. Savoir pourquoi agir, c'est aussi pour qui. Et il est vrai que ce que l'on observe aussi, y compris dans les débats, les éléments sur les PEDT dont on parle depuis ce matin, c'est vrai que cette question-là n'est pas toujours très clairement à mener, c'est-à-dire pour qui aussi on travaille, quel est l'enjeu de ces politiques éducatives. Ou alors, quand ce point est abordé, quand on fait référence notamment à la thématique ou à la problématique des inégalités, c'est vrai que on a du mal à comprendre comment cela s'opérationnalise, c'est-à-dire qu'est-ce que cela veut dire concrètement que de penser une politique éducative qui vise à lutter contre des inégalités éducatives et scolaires. Voilà, deuxième citation importante dès l'introduction. Là aussi, une affirmation très forte, je trouve. Je cite donc, les écarts de réussite scolaire associés aux origines sociales mettent en danger à la fois l'école publique française et notre République. Car depuis l'origine, le destin de l'école publique et celui de la République sont liés. À ce niveau atteint par les inégalités, il devient absurde et cynique de parler d'égalité des chances. C'est à l'égalité des droits qu'il faut travailler. Voilà. Alors, bien sûr, tout l'intérêt du rapport ne se joue absolument pas dans ces deux phrases, dans ces deux passages, mais j'aimerais bien que, dans cette table ronde, on puisse revenir aussi sur ces questions. Si cela vous paraît, bien sûr, pertinent à tous les deux, de ce rapport, par exemple, entre l'égalité des chances et l'égalité des droits, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce réaliste aussi? Comment le faire? Et d'ailleurs, de quel droit on parle exactement ici? Quel est ce droit lié à l'éducation? Est-ce qu'on peut avancer et préciser cette question-là? Et comment le réaliser, le mettre en œuvre. Autre enjeu aussi, s'il s'agit de préciser que la question de savoir pourquoi refonder, c'est aussi pour qui, comment reprendre et comment articuler cet ensemble scolaire qu'il s'agit sans doute de continuer à démocratiser, et comment mener la réflexion sur le rapport difficile entre le centre et la périphérie, le spécifique et le générique, le commun et le particulier, et comment essayer de ne pas s'en tenir à ce qu'on a très souvent appelé, par exemple, des politiques de compensation qui se sont développées un peu partout dans le monde, et notamment en France, sur la base d'une volonté de lutter contre les inégalités sociales, et notamment dont on a fait une lecture en termes de pauvreté, mais qui est restée assez souvent dans la logique d'une politique de compensation dont on... C'est, enfin, en tout cas, on a montré, on a essayé de réfléchir sur cette question-là, qu'elle n'est pas totalement adéquate ou pertinente pour une politique de démocratisation de l'ensemble des institutions éducatives et notamment scolaires. Bref, je vais vous laisser de suite la parole. Je précise simplement que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu ce rapport, d'abord qu'il est en ligne, on le trouve très facilement, que ce rapport est très documenté. Il synthétise de nombreux autres travaux, dont il intègre les éléments, d'ailleurs. Oui ? Oui, il synthétise des travaux de l'IFE. Il rapproche aussi des travaux de recherche donc, et de beaucoup d'acteurs ou d'associations très impliqués sur le terrain, qui ont été auditionnés, qui livrent des témoignages, présentent des initiatives diverses. Il est aussi très orienté vers l'action, j'ai trouvé. Il n'esquive pas des questions courageuses, ce qui fait du bien. Il pose des questions de redistribution des moyens. D'une certaine manière, moi je pensais à ce qu'un collègue avec qui on a travaillé, qui s'appelle Marc Demeuse, appelait à un moment donné le principe Robin des Bois, qu'ils avaient tenté de mettre en œuvre en communauté francophone de Belgique à propos de l'éducation prioritaire, mais qui n'a pas pu s'appliquer. Bon, il y a des passages qui me faisaient penser à ce principe Robin des Bois. Il inclut de nombreuses préconisations, le rapport, donc que l'on trouve dès le début, à court terme et à moyen terme, et qui elle-même se renvoie à quatre grands leviers, pour une politique globale mise au service de l'objectif unique de la réussite pour tous les élèves. Donc je vous laisse de suite la parole. Voilà, peut-être d'abord M. Delahaye, et puis après on écoutera Jean-Yves Rochex.
Donc merci d'abord de votre invitation. J'ai participé à un atelier ce matin, un atelier cet après-midi, et je vais y faire référence. C'était vraiment très, très intéressant. Alors, grande pauvreté et réussite scolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le premier rapport sur le sujet. En 1992, le recteur Philippe Joutard a écrit un rapport qui avait exactement le même titre, grande pauvreté et réussite scolaire. Ça veut dire que le problème n'est pas d'aujourd'hui, et je me suis livré une petite provocation dans la conclusion de mon rapport en disant que j'espérais qu'on n'attendrait pas à nouveau 23 ans pour constater en 2037 que la France a encore un problème, grande pauvreté et réussite scolaire. Grande pauvreté, Ça veut dire quoi dans notre système éducatif? Ça veut dire que nous avons aujourd'hui dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées des enfants, des adolescents qui vivent dans des familles rencontrant de très très grandes difficultés sociales. Alors c'est vrai que ça dépend où on met la barre. En accord avec l'Observatoire des inégalités, j'ai mis la barre à 50% du revenu médian et on a effectivement 1,2 million d'enfants qui vivent dans cette situation, 10%. Si on met la barre un petit peu plus haut, c'est-à-dire c'est ce que vient de faire l'UNICEF, c'est-à-dire on est plutôt sur 60% du revenu médian, on est à 8,5 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté et ça donne entre 2,5 millions et 3 millions de jeunes élèves, écoles, collèges, lycées. Réussite scolaire, je le dis tout de suite, qu'est-ce qu'il y a derrière cette appellation? C'est l'idée que dans cette sixième puissance économique mondiale, il n'est quand même pas totalement ambitieux, irréaliste, d'imaginer que tous les enfants puissent obtenir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l'issue de la scolarité obligatoire. Et donc mon travail s'est limité à la scolarité obligatoire, même si je ne me suis évidemment pas interdit de regarder ce qui se passe dans tel ou tel lycée. Un des objectifs de mon rapport, c'était de donner de la réalité derrière les chiffres. Parce que ces 10% d'élèves dont on parle, aujourd'hui, là, vous remarquez qu'on en parle assez peu, en tout cas beaucoup moins que ceux qui font option latin ou bilingue, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il me paraissait important d'aller effectivement dans des écoles, dans des collèges, parfois dans des lycées, d'auditionner aussi hein, des chercheurs, des collectivités territoriales, des parents d'élèves, des associations, pour donner de la réalité derrière cela. Parce que, en fait, quand on dit que des enfants sont en situation sociale extrêmement difficile, ça veut dire que ce sont des enfants et des adolescents qui ont des difficultés à entrer de façon sereine dans les apprentissages. C'est ça, très concrètement. Et donc, je décris des situations de mal logement, hein, de difficultés de logement d'un certain nombre de nos concitoyens qui font qu'effectivement, nos élèves ont quelques difficultés à travailler après la classe, sereinement chez eux. Des difficultés pour se nourrir. Il faut le dire, nous avons aujourd'hui des enfants, des adolescents dans ce pays qui mangent mal ou qui ne mangent pas suffisamment. On parle de l'obésité comme d'un signe de pauvreté, mais nos médecins de l'éducation nationale constatent de plus en plus des sous-poids, des sous-alimentations, des difficultés pour se vêtir, pour s'habiller, des difficultés pour participer aux sorties scolaires, aux voyages scolaires. C'est l'humiliation permanente pour un certain nombre de nos élèves quand ils voient partir les autres et eux rester dans l'établissement. Des difficultés pour acheter des fournitures scolaires. Bref, des données extrêmement concrètes qu'il était bon de visualiser et voilà, de donner de la chair à cela. Et ça m'a permis d'ailleurs de rendre systématiquement hommage à nos personnels, je pense d'abord au personnel de l'éducation nationale qui dans les écoles, collèges et lycées sont confrontés à ces difficultés et qui sont mobilisés pour essayer d'y répondre autant qu'ils le peuvent, mais aussi des parents d'élèves solidaires, hein, d'autres parents qui sont plus en difficulté, les collectivités territoriales, on en a beaucoup parlé ce matin, qui font beaucoup d'efforts, les associations. Et donc, mon rapport, s'il a un petit intérêt, c'est cela aussi, c'est de faire parler et de donner, encore une fois, de la réalité derrière des chiffres. Face à cela, on voit bien que, et c'est toute la première partie de mon rapport, nos réponses sont globalement insuffisantes, il faut aussi le dire. Malgré l'engagement, ce que je viens de dire des personnels, hein, très concrètement, ça veut dire que dans certaines écoles aujourd'hui de notre pays, on y vient bien entendu pour apprendre, mais on y vient aussi parce que l'école est un repère, c'est un refuge, c'est un point de repère, c'est un lieu de solidarité. Et il y a dans quelques salles de classe des cartons avec des chaussures, des vêtements, des cache-nez, des bonnets, etc. Enfin, je ne veux pas tomber dans le misérabilisme, mais c'est ça aussi le quotidien hein, d'un certain nombre de nos concitoyens. Et donc, malgré les efforts que peuvent faire les collectivités territoriales, hein, qui font tout ce qu'elles peuvent pour la gratuité des transports, pour l'accès à la restauration scolaire, pour l'aide aux sorties et aux voyages scolaires, on voit bien qu'on n'est pas à la hauteur des réponses qu'il serait nécessaire de faire. Et pour ce qui concerne l'État, l'éducation nationale, j'ai un passage sur les bourses de collège, hein, où l'on voit bien que le montant des bourses de collège aujourd'hui ne permet évidemment pas de répondre de façon satisfaisante aux difficultés. Le taux maximum d'une bourse de collège aujourd'hui pour une famille, c'est 357 euros par an. Il y a 180 jours de classe, ça fait 1,98 euros par jour, ça ne paye même pas la cantine. Ça, c'est le taux maximum. Au-delà du taux, et je demande évidemment qu'on revalorise les bourses de collège, au-delà, il y a un taux de non-recours trop important. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui pourraient bénéficier des bourses et qui n'en bénéficient pas pour toutes sortes de raisons, notamment parce que nos dossiers sont compliqués, les pièces sont compliquées à rassembler, nous avons des dates contraignantes. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez faciles à résoudre. Et la ministre a annoncé que des simplifications allaient intervenir très, très rapidement. Mais il y a vraiment un taux si important de non-recours de personnes qui devraient être boursières qui ne le sont pas, que nous avons un gros effort aussi à faire dans nos établissements scolaires pour davantage accompagner, aider les familles à tout simplement bénéficier de leurs droits. Je dis aussi un mot des fonds sociaux, qui sont, vous le savez, dans les collèges et dans les lycées, des crédits d'État qui permettent aux équipes de venir en aide à des élèves pour l'accès à la cantine, pour la tenue de sport, pour la participation au voyage. Et voilà, un des effets de mon rapport, c'est d'avoir mis en évidence le fait qui était passé totalement sous silence. On n'en a jamais parlé. Mais les fonds sociaux ont baissé, ont été divisés par 2,3 dans ce pays de 2001 à 2012. Ils étaient de 73 millions d'euros en 2001, ils sont descendus à 32 millions d'euros en 2012. C'est-à-dire que on est un curieux pays, c'est-à-dire qu'on a fait des économies sur les crédits destinés aux pauvres, au moment même où le taux de pauvreté de la population scolaire explosait. Donc, bien entendu, 2013-2014, et la ministre vient d'annoncer une nouvelle augmentation là, des fonds sociaux, et je propose que ces fonds sociaux reviennent au moins au niveau auquel ils étaient en 2001, ce qui serait la moindre des choses. Donc il y a toute une première partie effectivement de ce rapport qui traite de ce sujet. Évidemment la partie médicale, hein, la question de la pauvreté, c'est aussi la difficulté d'accéder aux soins, malgré le fait que notre pays est un pays qui a une couverture sanitaire, une couverture sociale que le monde entier nous envie. Nous avons pour ces élèves-là, pour ces familles-là dont on parle, d'énormes difficultés à accéder à des soins. Je décris des écoles où 40% des enfants ont des caries dentaires non soignées. Donc on a aussi un problème avec nos médecins scolaires puisqu'il n'y a pas assez de médecins scolaires et les postes ne sont pas tous pourvus en plus. On ne sait pas comment on va remplacer les 500 médecins scolaires qui partent à la retraite dans les prochaines années parce que c'est un métier qui n'est pas valorisé. Et donc là aussi, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites. Je ne veux pas être plus long sur cette partie parce qu'en fait, la question des difficultés scolaires et de l'échec scolaire massif des enfants de pauvres aujourd'hui dans notre pays, n'est pas qu'une, cet échec scolaire-là n'a pas qu'une raison sociale, n'a pas qu'une raison médicale. C'est aussi et c'est surtout une question pédagogique. C'est surtout et c'est aussi une question pédagogique. Je vais vous donner quelques chiffres, je ne vais pas en donner beaucoup, mais aujourd'hui vous avez 90% des enfants d'enseignants entrés en 6e en 1995 qui ont obtenu le baccalauréat 7 ans après, sans aucun problème. Enseignants, cadres supérieurs. C'est le cas seulement pour 40% des enfants d'ouvriers. Et quand on regarde le type de baccalauréat, je ne veux pas être trop long, ce n'est pas exactement les mêmes baccalauréats. Vous avez aujourd'hui, dans nos sections d'enseignement général et professionnel adaptés, ce qu'on appelle les SECPA dans nos collèges, 84% des élèves qui sont des enfants de familles de CSP défavorisées. Alors on est arrivé, je crois, à une situation qui est assez insupportable, où on voit bien que, sauf à considérer que les pauvres sont par nature en difficulté scolaire, on voit bien qu'on a un petit sujet dans notre pays, c'est la difficulté que nous avons à élargir la démocratisation de la réussite scolaire, d'élargir la base de recrutement de nos élites. Hein, et vous avez bien fait de rappeler que dans l'introduction, j'ai dit qu'il ne s'agit pas de niveler par le bas, il ne s'agit pas de faire moins bien réussir ceux qui réussissent bien aujourd'hui, mais d'élargir cette base sociale. Et donc la question, c'est pourquoi est-il si difficile dans notre pays, contrairement à d'autres, de parvenir à construire une école inclusive, une école qui fasse réussir tous les élèves, en tout cas que les différences de réussite ne soient pas autant liées à l'origine sociale. Pourquoi est-ce que c'est difficile dans notre pays de parvenir à cela? Je vous laisse méditer la question, on pourra peut-être y répondre collectivement tout à l'heure. Et donc, dans ma deuxième partie, j'essaye, de façon très, très modeste, mais en essayant d'avoir une vision la plus large possible, de dire qu'en effet, il y a quatre leviers. Si on veut vraiment, si on ne se paye pas de mots, hein, avec l'idée qu'il faut faire réussir davantage les enfants de pauvres dans ce pays, si on ne se paye pas de mots, il y a au moins quatre leviers qu'il faut utiliser. Il n'y a rien d'original dans ce que je vais vous dire. La difficulté, c'est de tenir tout ça ensemble, de façon cohérente et dans la durée, ce qui n'est pas rien. Le premier levier, c'est incontestablement une... Vous me dites hein, quand je dois accélérer. C'est tant que nous avons, et on l'a dit ce matin, un pays dans lequel il y a autant de clivages sociaux, résidentiels, tant qu'il y aura donc concentration des populations en grande difficulté dans certains territoires et pas dans d'autres, il faut accepter dans notre pays que nous concentrions encore davantage les efforts et les moyens en direction de ces écoles, de ces collèges, de ces lycées, et lycées au terme générique, hein, lycées d'enseignement général et technologique et lycées professionnels, qui accueillent une proportion importante de familles en grande difficulté sociale. Alors, on ne part pas de rien. Beaucoup a été fait. C'est pour ça que mon rapport n'est pas du tout un rapport pessimiste. Notre école a montré qu'elle était en capacité de changer. Elle a changé d'une certaine manière notre pays quand on a créé le baccalauréat technologique en 65, quand on a créé le bac pro en 85, quand on a commencé à construire le collège unique à partir de 75, quand on a décentralisé. Bref, on voit quand même que notre école est en capacité de réagir. Donc on peut penser qu'elle sera en capacité de franchir ce progrès supplémentaire. Et c'est tout l'objet de la loi de refondation, hein, qui s'inscrit aussi dans une lignée de grandes lois d'orientation, mais qui montre bien qu'il y a des priorités, priorités à l'école primaire. À nouveau, on crée des emplois, 54 000, la refondation d'éducation prioritaire, la reconstitution, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, de la formation des enseignants. C'est essentiel, je le dis à ceux qui ne connaissent pas bien notre système, la formation d'un enseignant, la qualité de la formation d'un enseignant est supérieure en effet sur la réussite d'un élève et supérieure à son origine sociale. C'est quand même, ça vaut le coup de réinstaller une formation initiale et continue digne de ce nom dans ce pays pour nos personnels de l'éducation nationale. Donc, on fait un travail également dans ce ministère pour mieux cibler l'attribution des moyens en fonction de critères sociaux. Donc, il y a quand même des choses qui se font. Mais, je le dis, encore une fois, si on ne se paye pas de mots avec la volonté de réduire les écarts, ça ne suffira pas. Et donc, il faut accepter l'idée qu'on a encore quelques années devant nous où il va falloir concentrer des efforts. Et dans un contexte économique qui est celui que vous connaissez, il va falloir, bien entendu, que l'éducation nationale elle-même s'interroge sur la manière dont elle utilise l'argent, dont elle utilise son budget. Vous avez entendu parler de notre projet de limiter, voire de supprimer le redoublement, ce qui pédagogiquement a un sens, ce qui budgétairement n'est pas inutile non plus, puisque ça générera des économies, et il faut donc que ces économies soit immédiatement réutilisé dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées qui éprouvent de grandes difficultés pour venir apporter des moyens supplémentaires pour diversifier les méthodes pédagogiques, davantage accompagner les élèves. On a un deuxième sujet dans notre pays qui est une source potentielle d'attribution plus ciblée de nos moyens, c'est... le fait que, et ça c'est connu, hein, ce n'est pas un scoop, nous dépensons 15% de plus que les autres pays qui nous sont comparables pour notre lycée. mais nous dépensons 15% de moins que les pays qui nous sont comparables pour notre école primaire. C'est-à-dire qu'on marche un tout petit peu sur la tête. C'est vrai que si on n'investit pas sur le primaire, on ne risque pas d'avoir une augmentation de la base sociale de réussite scolaire, puisqu'on sait bien que c'est très tôt dans la scolarité que tout ça commence, et c'est pourquoi la scolarité précoce est un enjeu essentiel. C'est pourquoi il y a un gros effort actuellement sur la scolarisation des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle. Il faut aussi, toujours pour ce premier levier, cette concentration des efforts et des moyens, s'interroger sur ce que nous faisons en dehors de l'école pour mieux accompagner les élèves, parce qu'on sait qu'un écolier, il travaille à l'école, mais un écolier, il intègre les apprentissages, il construit ses apprentissages avec un minimum de travail personnel, alors qu'il est croissant dans sa scolarité, mais il faut effectuer du travail personnel, il y a des devoirs à faire, il y a des leçons à apprendre. Et on voit bien que là, c'est un moment de profonde possibilité d'inégalité entre les élèves. Et il n'est pas intéressant de regarder, je le dis dans mon rapport, comment nous nous y prenons dans ce pays. En fait, on réussit l'exploit de mettre sous contrainte budgétaire, par exemple, l'accompagnement éducatif, qui est un budget d'État, mais c'est sous contrainte budgétaire, c'est-à-dire que chaque année, on regarde ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, on est à 230 millions d'euros pour l'accompagnement éducatif qui sert à l'aide aux devoirs. On paye les professeurs ou des assistants d'éducation dans le cadre de leur service pour faire cette action. Donc ça, c'est sous contrainte budgétaire. Par contre, n'est absolument pas sous contrainte budgétaire les exonérations fiscales qui permettent d'aider ceux de nos concitoyens qui peuvent payer des cours particuliers d'aide aux devoirs le soir dans certaines officines privées. Et actuellement, ça coûte au moins 300 millions d'euros. Nous ne mettons pas sous contrainte budgétaire non plus l'accompagnement éducatif destiné à nos élèves de classe préparatoire aux grandes écoles. Ils ont de l'accompagnement éducatif, ces élèves. Ça s'appelle des heures de colle. C'est tous les soirs, ils ont par groupe de 2 ou 3 un professeur très très expérimenté. Bon, ça nous coûtait 50 millions d'euros en 2002, ça nous coûte 70 millions d'euros aujourd'hui. C'est pas sous contrainte budgétaire parce que c'est dans un arrêté et c'est protégé budgétairement. Mais notre accompagnement éducatif pour les collégiens, lui, n'est pas protégé budgétairement. Donc il y a sans doute une façon de réfléchir à cette forme de solidarité qui peut être d'une certaine manière une solidarité à l'envers. Si je voulais être un tout petit peu provocant, je dirais qu'on parle beaucoup d'une certaine catégorie du citoyen qui, entre guillemets, serait désassisté. Il y a peut-être d'autres catégories de citoyens qui sont aussi, qui bénéficient d'une assistance. Mais dans le cadre d'un travail sur la justice, une plus grande justice à l'école, il me semble que c'est une question qu'on doit se poser. Deuxième levier, c'est là la partie beaucoup plus pédagogique, c'est une réflexion d'ensemble sur les approches pédagogiques, les dispositifs pédagogiques, nos organisations, qui ne se valent pas toutes si on veut faire réussir tous les élèves. En fait, on a un système éducatif, je dis ça vraiment très très rapidement, qui historiquement, pédagogiquement, s'est organisé non pas pour faire réussir tous les élèves, mais pour sélectionner les meilleurs. Il le fait très bien d'ailleurs. Vous savez que aux évaluations PISA, nos élèves de 15 ans, 50% d'entre eux sont les meilleurs élèves du monde. Ils sont au niveau des Coréens, ils sont au niveau des Finlandais, ça va très bien. Il faut bien entendu qu'on garde cela, il ne s'agit pas de faire baisser le niveau de nos meilleurs. Mais on a un problème en France, c'est que 30% de nos élèves de 15 ans sont en très grande difficulté, que leur nombre est en train d'augmenter et que les écarts sont en train de se creuser. Et donc si on veut travailler à la réduction de ces écarts, on voit bien que toutes les organisations, tous les dispositifs, toutes les démarches pédagogiques ne se valent pas. Et donc on a un gros travail à effectuer dans ce pays pour faire continuer, parce qu'il bouge notre système quand même, il ne reste pas immobile, mais continuer à le faire évoluer dans un esprit de davantage d'attention portée aux élèves les plus en difficulté. Je suis très rapide, dans mon rapport vous ne trouverez de ce point de vue rien d'original, parce que tout se fait déjà. Sauf que ça ne se fait pas partout. C'est-à-dire que grâce à l'engagement d'équipes qui innovent, qui expérimentent, grâce à des chercheurs qui évaluent, un certain nombre d'actions. On voit bien ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Toute la difficulté dans notre pays, c'est de passer de ces innovations, de ces expérimentations qui sont isolées, à une montée en généralité, à une généralisation pour que ça puisse davantage diffuser dans l'ensemble du système éducatif. Et donc, c'est une partie où je ne dis pas voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de méthode pédagogique qui fonctionne pour tous les élèves et à tout instant. Et on sait bien que les voies de réussite sont très diverses. Mais il y a quand même quelques principes. J'en donne quelques-uns dans mon rapport. L'organisation de la scolarité en cycle, par exemple, ou les rythmes scolaires, tenez, puisqu'on en a parlé ce matin dans le cadre du PEDT. C'est évident que si on remet une cinquième matinée de classe pour tous les élèves, c'est du meilleur temps scolaire que l'on donne à tous les élèves, parce qu'on apprend mieux le matin que dans une semaine de quatre jours avec des fins d'après-midi où les élèves et les enseignants sont épuisés, ça on le sait. Mais vous voyez bien quelle a été la difficulté que nous avons rencontrée et que pour articuler, alors d'abord pour mettre en place cette cinquième matinée de meilleur temps scolaire et pour l'articuler de façon cohérente, hein, dans le cadre d'un temps de l'enfant organisé de façon la plus harmonieuse possible. Ça a été très compliqué parce que, comment dire, pour cette question-là comme sur toutes les autres, qui peut être contre la réussite scolaire plus importante de tous les enfants ? Personne, bien sûr. À la condition, peut-être, que ça ne change pas une école qui fait si bien réussir certains élèves. Et donc, vous avez quand même, sur ce sujet des rythmes scolaires, mais le sujet du collège, mais le sujet du socle commun, voilà une question fondamentale qui se pose dans notre pays, qui est la question de l'intérêt général. Faire réussir tous les élèves ne nuira à personne. Ça améliorera la situation d'ensemble de notre pays. Mais ce n'est pas quelque chose qui est encore bien compris. J'ai sous les yeux là, et puis... trois minutes, non parce que ça, ce n'est pas dans mon rapport, ça. Ça sera dans quelque chose que je suis en train d'écrire. C'est le verbatim d'une émission d'actualité sur France Inter, le 10 septembre 2014 à 7h13 du matin. Et on parle des rythmes scolaires. Et donc c'est l'animateur de l'émission qui dit « Debout tout le monde, hein, on est à 7h13 du matin, hein, debout tout le monde, puisqu'il y a désormais école le mercredi pour les élèves du primaire. Fini les cours de tennis, de dessin ou de musique le matin à la maison de quartier ou au club voisin. Bonjour, et il dit bonjour à la journaliste. Et l'animateur dit, on va voir avec vous si les changements de rythme scolaire avec l'arrivée des nouvelles activités périscolaires ont des conséquences sur la vie des associations sportives ou culturelles. On n'a toujours pas parlé du temps scolaire. On n'a toujours pas parlé de l'apprentissage de la lecture rendu possible et plus opérationnel le matin. Et donc on interroge un petit enfant, hein, dans le reportage. Donc c'est le petit enfant qui dit, je faisais du tennis. Mercredi. Cette année, je le fais à 1h de l'après-midi parce que j'ai école le matin. Je sors de l'école à midi moins le quart et mon grand-père vient me chercher pour m'emmener au tennis à 13h. La journaliste reprend. Tout ça, c'est 7h13 le matin. Donc, l'élève, son prénom, va pouvoir continuer à faire du sport à Issy-les-Moulineaux, mais ailleurs. Qui dit mercredi matin en moins, dit choix réduit d'activité. Je vais arrêter là, ça dure plusieurs minutes. Mercredi matin en moins. Voilà comment, pour une partie, hein, de nos concitoyens, une matinée de classe supplémentaire du meilleur temps de classe pour tous les enfants a été vécue comme une matinée en moins pour faire du tennis, pour faire du poney. Et la fin du reportage, d'ailleurs, on va interroger le responsable du club de poney qui se plaint parce qu'il n'a plus personne le mercredi matin. On est compte, c'est un scandale, les enfants sont à l'école. Nous étions le seul pays au monde à avoir infligé la semaine de 4 jours à nos enfants. Personne ne nous a imité, vous avez remarqué. Bon, j'arrête là. Vous comprenez un peu l'esprit dans lequel j'ai travaillé. Le troisième levier, c'est bien entendu une politique de formation et de gestion de ressources humaines pour réduire les inégalités, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et je ne veux pas être plus long pour ne pas enlever la parole à Jean-Yves Rochex. Et puis, le quatrième levier, et c'est tout le sens de votre journée, c'est que, bien entendu, l'école ne peut pas tout toute seule, qu'elle a besoin d'alliés, qu'elle doit travailler avec les parents, j'ai un long développement là-dessus, qu'elle doit travailler avec les collectivités territoriales, et mon rapport est semé d'exemples d'implication des collectivités territoriales. Elle doit travailler avec le monde associatif. Et donc, on passe donc de la réussite scolaire à la fin de mon rapport à, encore une fois, la réussite éducative. Et c'était tout l'objet de votre journée d'aujourd'hui. Mais je m'aperçois qu'il faut que je m'arrête parce que sinon, je vais vous empêcher de parler.
Oui, merci. Vous en entendrez encore bien plus longtemps. Voilà. Moi, je n'ai pas préparé d'intervention très en forme. Donc, je voudrais un petit peu réagir... à partir des travaux que j'ai menés, que je continue à mener, dont Daniel a parlé, et dont Jean-Paul Lehay parfois me fait l'honneur de les citer, sur ce rapport, sur ce que j'y trouve important, sur ce qui peut-être pose des questions qui méritent, qui restent évidemment devant nous, parce que si les rapports suffisaient à résoudre les questions, ça se saurait, mais ils peuvent y aider. Enfin, celui-là peut y aider, à mon avis. Il me semble, moi, il y a trois principes politiques que je trouve, hors politique évidemment, au vrai sens du terme, que je trouve très précieux dans ce rapport. Je vais les rappeler et que je partage complètement. Je commence par un propos qui n'est pas un propos de chercheur, mais nos objets de recherche, on ne les choisit pas simplement pour des intérêts scientifiques, hein, c'est évident. Donc le premier, ça a été rappelé, c'est l'idée que refonder l'école, c'est faire réussir les plus démunis. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un sens à la refondation de l'école ou aux lois d'orientation, c'est la visée de démocratisation et de garantir à tous les élèves, y compris ceux qui sont à la situation sociale la plus précaire, l'accès au, alors, on va dire au socle commun, pour faire vite, on pourrait débattre sur le socle commun, mais ce n'est pas la question. Le deuxième principe politique que je trouve très important, c'est l'idée que l'échec ou l'inégalité scolaire dont sont victimes les plus pauvres et les plus précaires, ce n'est pas un accident, hein, c'est une des conséquences du fonctionnement structurel. Alors, de notre système éducatif, de notre société aussi, c'est-à-dire les pauvres ne posent pas des problèmes à la société, ou les pauvres ne posent pas des problèmes au système éducatif, ils posent les problèmes de société. Et je pense qu'il y a un parti pris, hein, c'est un postulat que moi je partage, que je défends aussi depuis plusieurs années, c'est que c'est en s'affrontant au pari le plus difficile de la réussite scolaire ou de l'amélioration du destin scolaire des plus pauvres, qu'on trouve des pistes pour la transformation démocratique du système éducatif pour tous. C'est-à-dire les pauvres, ce n'est pas une enclave dans la société, surtout pas. Même si on aura à réfléchir sur inégalité, précarité, ségrégation, il y a des choses tout à fait importantes. Et puis le troisième principe que moi je trouve que je partage aussi, et que je trouve qui est peu présent dans le débat politique sur les questions éducatives, que ce soit les questions éducatives traitées par l'appareil d'État ou différentes collectivités territoriales, c'est l'idée que la démocratisation, c'est l'aune à laquelle on doit mesurer toutes les autres initiatives. Et que s'il y a une priorité dans la situation qui est la nôtre, que Jean-Paul Delahaye a rappelé, hein, qui est quand même très inquiétante sur le fait que toutes les enquêtes, hein, on a évoqué PISA, mais il y en a d'autres, hein, il y a PIRLS, il y a les enquêtes CEDRE que mène l'ADEPE, etc. Toutes les enquêtes semblent converger pour dire que depuis le début du XXIe siècle, la situation scolaire des plus pauvres, déjà la situation sociale des plus pauvres se dégrade, et la situation scolaire des plus pauvres se dégrade également. Si la moyenne des performances françaises en PISA ne bouge à peu près pas, bon, il y a quelques petites descentes dans les classements qui sont dans la marge de variation non significative. En revanche, le sort des plus démunis se dégrade considérablement. Enfin, pas considérablement, mais notablement, et ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Donc, mesurer et débattre, y compris des mesures partielles à l'aune de cet objectif global. Et je trouve qu'on a beaucoup dans le débat politique, et j'y reviendrai, y compris par exemple sur le débat sur la réforme du collège, parfois on débat d'une initiative isolée, hein, dont présentée comme isolée, évidemment, elle va faire assez rapidement consensus. Voilà. Donc est-ce qu'on est pour ajouter au curriculum l'école primaire, les langues vivantes, l'informatique, la programmation, enfin, on peut en rajouter comme ça. Isolément comme ça, personne ne va être contre. Mais quels effets cet ajout peut avoir dans la pensée, la conception du curriculum pour cette question de la réduction des inégalités? Si cette question-là n'est pas posée, le débat pour être qu'on est pour ou contre former, je n'ai pas la réponse, hein, mais former au langage informatique dès l'école primaire ou dès le collège, en soi est tronqué. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais c'est la même chose pour les initiatives des collectivités territoriales qui se proposent, et parfois avec des tas de bonnes intentions, de venir suppléer, compléter l'action de l'institution scolaire, avec parfois des choses qui peuvent être efficaces dans leur ordre propre. C'est-à-dire, on a un projet qui est tout à fait efficace pour ceux qui y participent. Il n'est pas sûr que l'effet social de ce dispositif, de cette action efficace dans son ordre propre, l'effet social, n'aille pas à l'encontre des objectifs qu'on visait. Ça, pour moi, c'est une question majeure qui devrait réguler notre débat politique sur les questions éducatives et qui, je pense, est loin de le réguler suffisamment, au-delà même des alternances politiques. Donc voilà, moi, pour ces trois choses-là, je crois les avoir lues dans le rapport de Jean-Paul Delahaye. Il n'a pas l'air de trop protester contre ma lecture, et c'est des choses que je partage complètement. Alors, quelques éléments aussi. Une des choses qui est tout à fait importante, un des premiers objectifs de ce rapport, c'est ce que Jean-Paul appelle le devoir de connaissance. Et ça, je trouve que c'est important, parce qu'il y a une synthèse tout à fait intéressante qui, à ma connaissance, existe peu sous cette forme-là. De synthèse. Et en même temps, ça désigne à quel point nous savons peu de choses en termes de connaissances, en termes de recherche sur ces questions-là. Par exemple, les effets sur la vie familiale, sur le psychisme des individus, sur le rapport à l'école, sur le rapport au temps, de la grande précarité, du mal logement, de la malnutrition, des horaires de travail épouvantables. Voilà, on fait des discours d'éducation à la parentalité à des mères de famille qui se lèvent le matin à 5 heures pour aller faire 2 heures de ménage avant l'ouverture des bureaux et qui rentrent chez elles pendant que leurs enfants sont à l'école et qui, au moment où les enfants sortent de l'école, repartent pour faire des heures de ménage dans les bureaux après la fermeture. Je trouve qu'il y a une hypocrisie sociale quand même qui, moi, c'est pas un propos de chercheur, je tiens là, mais qui est quand même extrêmement problématique. Donc on fait la morale aux pauvres parce qu'on n'est pas, y compris sans savoir exactement quelles sont les conséquences, encore une fois, ou les effets. Conséquences ou effets sont des termes qu'il faudrait discuter. Donc on manque de connaissances et les chercheurs ne se bousculent pas pour travailler là-dessus. Ça, c'est... La question est tout à fait importante. De la même manière, je trouve qu'il y a une chose qui n'est pas proprement dans le domaine du fonctionnement du système éducatif, mais encore l'idée, je crois, à réaffirmer du rôle de l'école dans le suivi social et médical des populations. Voilà. Et l'État, quand même sinistré dans ce pays de la médecine de santé scolaire, des services sociaux scolaire. Et on ne peut pas s'en sortir avec l'externalisation sur la médecine libérale. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, Jean-Paul l'évoquait, voilà, on a des médecins de santé scolaire qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés. On n'a pas cette tradition en France qui existe dans certains pays. Moi, je connais assez bien l'Amérique latine, j'ai des doctorants qui travaillent là-dessus, où l'école assume, sans perdre son rôle d'école, sa fonction sociale, éventuellement médicale, d'être le relais pour des politiques sociales ou médicales, sans pour autant diluer sa fonction politique, sa mission d'instruction, dans une mission d'assistance sociale. Donc je crois que là, on a des choses à retravailler que ce rapport désigne de manière très, très importante. Alors, sur les questions de levier, moi j'ai beaucoup travaillé, Daniel le rappelait, sur la politique ZEP, et je trouve que ça vaut. Quand on a travaillé sur la politique ZEP, on a rencontré ce que j'appelle moi un double paradoxe qui me semble valoir aussi bien pour si on s'intéresse à la politique ZEP menée du point de vue étatique que si on s'intéresse à l'idée que l'école, particulièrement sur cette question de la démocratisation, a besoin de partenaires. La première chose, c'est que tous les discours disent qu'il faut transformer les modes de fonctionnement, les pratiques, etc. Donc on a une injonction de discours, d'incitation, etc. Et en fait, on a très peu de connaissances sur qu'est-ce qui se fait réellement en termes de pratique de savoir. Je ne dis pas qu'est-ce qui s'affiche en termes d'objectifs du type on travaille sur la lecture-écriture, sur les mathématiques, rendre ludiques les mathématiques, etc. Mais qu'est-ce qui se fait dans le détail, dans les pratiques et les situations d'apprentissage, au mieux, ou d'activité, pour le meilleur ou pour le pire. On sait très peu de choses là-dessus, et il me semble que depuis que, sur la politique ZEP, depuis plus de 30 ans que la politique ZEP existe, on s'est peu occupé de cela, au-delà des apparences, de ce qui peut se mettre en titre, éventuellement en affichage, voire en inaugurable, etc. Mais là-dessus, on sait très peu de choses, et y compris on sait très peu de choses également de qu'est-ce qui se passe concrètement dans des projets partenariaux entre des collectivités territoriales, des organismes culturels et l'institution scolaire. Voilà. On a beaucoup de généralités, beaucoup d'évaluations par la participation, par la satisfaction, etc. Pas beaucoup d'éléments un peu concrets, un peu consistants sur, par exemple, si on a un projet partenarial entre l'école et une institution culturelle, pas simplement sur quoi porte ce projet, mais qu'est-ce qui s'y fait concrètement et qu'est-ce qui reste une fois le projet achevé en termes d'apprentissage, de disposition, de rapport à la culture des élèves. Ces questions-là sont très rarement posées, et depuis des années et des années sur cette question-là. Donc, vous voyez, ce que je dis, ce n'est pas du tout pour dire il faut pas faire ce type de choses-là, c'est pour attirer la vigilance sur un certain nombre de questions qui me semblent insuffisamment traitées si on partage le postulat que la question de la démocratisation, c'est l'aune à laquelle, la priorité à laquelle on ordonne les autres. Deuxième type de paradoxe, et ça je trouve tout à fait important, et j'en dirai peut-être un mot sur le débat sur le collège, c'est que, alors même que si on vise des questions de ciblage, en particulier la politique ZEP, cible des catégories de population et avec des critères socio-statistiques, donc avec à partir d'une connaissance sociologique ou d'une vulgate sociologique, en revanche, le débat sur quel type de pratique ou quel type d'approche, dans le rapport il est utilisé approche plutôt que pratique, et je trouve ça tout à fait judicieux et prudent, quel type d'approche est sociologiquement la plus pertinente pour promouvoir la réussite scolaire, le développement culturel des enfants les plus démunis, elle est très peu présente dans le choix des actions, des projets, des choses qui sont promues par les uns et par les autres. Et je trouve par exemple très intéressant dans le débat sur le collège, je trouve on a eu des prises de position où il fallait être entièrement tout pour ou entièrement tout contre, ce qui me pose on voit bien dans des logiques de positionnement, mais ce qui est assez surprenant, c'est que voilà, quand on débat de la question des langues vivantes ou des classes bilingues en allemand, on met en avant des arguments sociologiques en disant voilà, c'est des classes d'élite. Mais quand on débat des enseignements pratiques interdisciplinaires, on est là dans une rhétorique de l'innovation, et tous les travaux d'ordre sociologique qui interrogent, non pas pour dire il faut faire, il faut en faire ou il ne faut pas en faire, mais à quelles conditions de l'interdisciplinaire est pertinent et à quelles conditions ce type de mise en œuvre de pédagogie intégrée peut déboucher sur des apprentissages et pas simplement sur des expériences plaisantes pour les élèves, ce qui n'est déjà pas si mal, le plaisant. Mais cette question-là n'est plus posée dans le débat, y compris par des sociologues qui disent la réforme du collège est très bien, etc. Peu importe, mon souci, là, ce n'est pas de prendre position sur la réforme du collège, c'est de montrer qu'on a là une sorte d'impensée sociologique sur les questions de pratique ou d'approche professionnelle, pédagogique ou... Je préfère dire professionnel parce que ces questions-là ne se posent pas simplement dans les pratiques enseignantes. Voilà. La conception des manuels, on a un jeune collègue qui est plutôt jeune d'ailleurs, un collègue qui vient de publier des choses sur les manuels qui montre comment l'évolution des manuels et de la forme même textuelle des manuels est quelque chose qui, si elle n'est pas traitée pédagogiquement, j'ai envie de dire même, et sociologiquement dans les classes, risque fort d'accroître les écarts parce qu'elle présuppose de tous les élèves qu'ils sachent relier ensemble de l'iconographique, du texte linéaire, du texte non linéaire, etc., qu'on ne leur apprend pas à faire, voire même qu'on ne soupçonne pas que ce serait à apprendre parce que c'est évident pour les lettrés que nous sommes. Et on a des évolutions qui, si elles ne sont pas prises en considération sur le plan sociodidactique, participent à l'accroissement des inégalités, ou peuvent participer à l'accroissement des inégalités. Donc, il y a un paradoxe là qui est qu'on désigne des populations sur des critères plutôt sociologiques. En revanche, la réflexion, on va dire pédagogique au sens large, elle obéit beaucoup plus à une rhétorique de l'innovation qu'à une exigence de démocratisation et à la mobilisation de connaissances sur ces questions-là, qui sont pas, ne disent pas, et heureusement, ne sont pas en mesure de prescrire telle ou telle pratique qui serait supposée efficace, mais on ne sait pas rien aujourd'hui, depuis l'hypothèse de Bourdieu et Passeron sur l'indifférence aux différents terrains, on a beaucoup avancé sur des choses de ce type-là, et on a l'impression que le débat pédagogique a beaucoup de mal à prendre en considération ces questions-là et à sortir du débat entre il faut innover ou il faut rester dans la tradition, ou centrer sur l'élève, centrer sur le savoir ou les disciplines, ce qui est un débat quand même un peu, je veux dire, un peu pauvre et un peu affligeant. Et je trouve que ces questions-là méritent également d'être posées dans les rapports, alors dans éventuellement les projets éducatifs de territoire, ou dans les rapports entre l'école et ce qu'on a pris d'habitude d'appeler ses partenaires. Voilà. Et ce n'est pas toujours le cas. Et de ce point de vue-là, je ne sais plus, sur les leviers, alors je pense que le levier, je partage aussi pas mal les choses qui figurent dans le rapport sur l'idée d'allocation différentielle de moyens. Et je crois par exemple qu'on a fait le choix en France, et à ma connaissance, un choix peu explicite et peu argumenté, lorsqu'on a créé la politique ZEP, de coupler le principe de dotation différentielle, au passage, dotation différentielle, on a donné un peu plus en ZEP aux élèves de ZEP que ce qu'ils n'auraient eu s'ils n'avaient pas été en ZEP, mais pas plus que les autres, pas plus que les élèves du centre-ville, du centre riche de Paris, etc. Donc, on a couplé un principe de dotation différentielle avec un principe de ciblage dichotomique. Il me semble aujourd'hui, et peut-être est-ce dans cette direction-là qu'on s'oriente, qu'il faut découpler cette affaire-là et qu'il faut adopter un principe générique d'allocation différentielle de moyens qui concerne tous les établissements, y compris le privé, et ça, c'est dans le rapport, et je m'en félicite pour ma part, et qu'il faut découpler ce principe-là d'un principe de ciblage territorial dichotomique qui correspondrait, grosso modo, on ne sait pas, peut-être aurait plus, enfin, aux 300 ou 400 endroits qui sont où vraiment c'est l'unité du système éducatif qui est en cause. Et le rapport dit que peut-être d'ailleurs dans ces zones-là, on est revenu, sans le dire, à un état antérieur à la construction de l'école unique. Et je trouve cette remarque assez pertinente. Donc moi, je plaide pour un découplage. Alors, on nous annonce allocation différentielle de moyens. On va voir ce que ça donne, mais pour ça, il me semble qu'il faudrait aussi... cette question-là nécessite de conjuguer de la technicité, c'est compliqué, mais aussi de la transparence et du débat démocratique. Ça fait trois exigences qui, elles, en soi, ne vont pas toujours de soi, enfin, qui peuvent aller l'une à l'encontre de l'autre, mais il faudra, me semble-t-il, les conjuguer. Deuxième chose qui est tout à fait importante, mais c'est l'idée de... qu'on range sous le terme pédagogie explicite, avec beaucoup d'ambiguïté sur cette affaire-là. C'est-à-dire, c'est l'idée que, alors qui était déjà une hypothèse chez Bourdieu Passeron en 70, la reproduction, 70, c'est l'idée que le système éducatif, en fait, et voire même le fonctionnement de d'autres institutions, mais le système éducatif, il a pour mission de faire acquérir les savoirs et les compétences et les dispositions, que le système éducatif, en fait, exige de tous les élèves ce qui ne leur apprend guère, voire même ce qu'il ne sait pas forcément que c'est à leur apprendre. Et ça, c'est quelque chose... Et donc, l'idée de pédagogie explicite, c'est pas simplement d'expliciter les consignes, etc. C'est, d'être au clair sur les objets même d'apprentissage. Je vais vous donner des exemples parce que... ça peut paraître un peu abstrait. Je pense à un des exemples qu'on a traité dans le bouquin qu'évoquait Daniel, où dans l'idée commune, hein, dans la rhétorique de l'innovation, qu'il faut faire travailler les élèves sur des supports ou des activités qui sont supposées proches de ce qu'ils connaissent dans leur milieu de vie, on observe une séquence où on demande à des élèves d'écrire une recette de cuisine. Alors déjà, on va s'arrêter là-dessus, et on pourrait demander aux personnes qui sont à la salle de lever la main, ceux qui ont déjà écrit une recette de cuisine, pas recopié une recette de cuisine, écrit une recette de cuisine. Je ne sais pas vous, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Jamais. Oui, donc déjà, l'authenticité de la situation, elle est quand même... Donc, recette de cuisine, c'est un objet familier. C'est un objet familier en réception, et éventuellement en usage, en production, surtout pas. Une recette de cuisine, c'est un texte qui est quand même très particulier. Recette de cuisine, c'est deux listes. C'est une liste d'ingrédients et une liste d'opérations. La liste d'ingrédients n'a pas besoin d'être ordonnée, la liste d'opérations a besoin d'être ordonnée. Ah, et ben cet objet, donc c'est un objet textuel très élaboré. Il est familier en réception, il n'est pas du tout familier en production. Et en travaillant avec les enseignants qui donc, demandent à des élèves d'écrire des recettes de cuisine, c'est-à-dire de faire une activité... Alors, on est en petite classe, hein, CP, CPCE1. Donc c'est une tâche inaccessible à la plupart des élèves de ce niveau-là, et dont la difficulté n'est pas thématisée par l'enseignant. Parce que, alors évidemment, quand on travaille avec l'enseignant en 5 minutes, on thématise la difficulté, comme je viens de le faire là. Voilà. Et donc là, on demande aux élèves de savoir faire des choses qu'on ne leur apprend pas à faire, parce qu'on ne sait même pas que c'est difficile. Il y a une certaine opacité des objets de savoir pour les élèves, parce qu'ils sont opaques, et leur difficulté à la fois propre et le rapport social à ces objets n'est pas... peu connu, peu thématisé, pas simplement par les professionnels, mais par la régulation politique du système éducatif. Et donc l'enseignement explicite, c'est de travailler explicitement à construire chez tous les élèves ce dont tous ne disposent pas. Si on ne le fait pas, évidemment, on renvoie aux inégalités d'appropriation familiale. Et on peut effectivement avoir des familles qui, puisqu'elles font le boulot de l'école, pour une large part à la maison, se désole d'avoir une demi-journée d'école supplémentaire au détriment du tennis. Je trouvais l'exemple tout à fait édifiant. Voilà, donc ces questions de travail sur l'implicite est quelque chose qui me paraît une orientation majeure, hein, si on veut travailler à réduire les inégalités sociales, ce qui évidemment n'est pas exhaustif, hein, d'agir sur tous les facteurs sociaux qui ne sont pas proprement scolaires. L'école ne va pas à elle seule compenser toutes les inégalités sociales, mais elle ne fait pas que les refléter, elle les reproduit dans son ordre propre, et c'est là-dessus que les leviers peuvent agir, y compris également en matière de formation et de gestion des ressources humaines. Et là, je ne sais pas ce qu'en dirait Jean-Paul Delahaye, mais sur la formation initiale des enseignants, je trouve que il y a quand même un obstacle structurel qui est la place du concours entre M1 et M2. Je ne vois pas comment on peut s'en tirer quand on connaît... Enfin, c'est peut-être un truc très interne d'éducation nationale, je m'excuse auprès de vous, mais il est extrêmement important que la formation initiale et continue des enseignants soit reconstruite parce qu'elle a été sinistrée ces dernières années. Mais si on veut la reconstruire, il me semble qu'il faut s'en donner les moyens... et budgétaire, et organisationnel, et culturel, et qu'on n'est pas exactement à la mesure du problème, me semble-t-il. Dernier point, il me semble que si on revient sur ces questions en disant la démocratisation, c'est la priorité à l'aune de laquelle on mesure les autres, ben, ça nécessite un certain courage politique parce que la situation, me semble-t-il, a un peu évolué, enfin même beaucoup évolué, depuis les années 60-70. Il me semble que, c'est une hypothèse un peu générale que je fais, mais il me semble que toute la période des Trente Glorieuses, hein, qui a abouti à l'école unique, donc au collège unique avec ses imperfections, etc., mais était soutenue par une alliance entre classe moyenne et classe populaire sur la question de la démocratisation et de l'unification du système éducatif. Il me semble qu'aujourd'hui, on a plein d'indices qui montrent que cette alliance est rompue, ou qu'elle est fragilisée, et pas d'ailleurs qu'en matière scolaire. Hein, le discours de la solidarité, c'est pas... On a évoqué hein, tous les discours sociaux de condamnation des supposés assistés, etc. Voilà. L'idée que la solidarité contraint, que l'intérêt général contraint tout le monde au-delà de ses intérêts particuliers, est sans doute moins partagée ou moins mise en forme politiquement aujourd'hui qu'hier. Et en matière scolaire, ça donne des choses quand même très, très compliquées. Alors sur la carte scolaire, le choix des établissements, le type de pédagogie promue, le débat sur le rythme scolaire, voilà, je ne reviens pas, mais y compris, par exemple, sur les recrutements des enseignants. Moi, je pense, par exemple, que la situation du recrutement des enseignants du premier degré à l'Académie de Créteil et, pour une part, à l'Académie de Versailles est très problématique. Et je pense qu'on ne s'en sortira pas avec un concours spécial à l'Académie de Créteil, mais qu'on s'en sortira peut-être si on fait un concours commun toute l'île de France. Mais ça, du point de vue de l'alliance entre... des rapports entre classe moyenne et classe moyenne supérieure qui sont dans l'Académie de Paris et classe sociale plus dominante dans l'Académie de Créteil, par exemple, c'est pas très simple. Mais non, pour moi, là, il y a un vrai problème qui nécessite une lucidité et un courage politique. Et je trouve le rapport de Jean-Paul Delahaye conjugue les deux. Voilà.
Écoutez, on va laisser directement la parole... dans la salle pour des questions.
Une prise de parole, donc Serge Fraisse, CGET Politique de la Ville. Pas de questions en particulier, mais juste souligner le thème de la parentalité. C'est ce que je fais à chaque fois, donc si je pars d'ici sans l'avoir fait, j'aurai l'impression d'avoir manqué quelque chose. J'entends les deux propos. J'entends le propos dans votre rapport où cette thématique est développée et je vous en remercie parce qu'effectivement, venant du sein de l'éducation nationale, c'est d'autant plus important. Mais j'entends aussi le propos du chercheur qui dit qu'effectivement, au-delà de l'affichage de la parentalité, au-delà du fait qu'il faut améliorer les relations entre l'école et les parents, ou entre les parents et l'école, il y a une façon probablement de travailler qu'on n'a pas encore trouvée les uns et les autres. Et donc sachez que si vous souhaitez travailler sur cette thématique, au-delà de l'enquête qui est en cours sur le programme de réussite éducative, alors pas sur le côté parentalité, mais sur le côté général, nous sommes prêts à coopérer avec l'ADEP et avec qui il faudra pour travailler ce sujet, je crois effectivement, intimement et institutionnellement, qu'on n'a pas trouvé les moyens de faire travailler l'école avec les parents et d'accorder effectivement toute leur place à ces parents.
Oui, non, bien sûr. Il y a d'ailleurs un rapport parlementaire qui est sorti été 2014. Madame Valérie Corre, qui a fait un rapport spécifique sur les relations entre l'école et les familles et qui est sévère à l'égard de l'éducation nationale, mais à juste titre, parce que les rapports sont des rapports difficiles. Et évidemment, s'agissant des familles les plus éloignées de l'école, on voit bien toute l'étendue du problème. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de contresens aussi, parce que comme on ne se connaît pas, on s'imagine quantité de choses. Sur la parentalité... Ça fonctionne, moi je le constate, quand ça n'est pas à sens unique. C'est-à-dire que quand l'école imagine qu'elle a aussi à apprendre des parents de son quartier, de son village, et pas seulement les parents auraient à apprendre des enseignants, quand ça fonctionne dans les deux sens, on a débloqué quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on peut aussi réinstaurer un peu de confiance. On parle là... De familles, de parents qui ont pour certaines un passé un peu douloureux avec l'école aussi hein, et qui spontanément ne viennent pas à l'école et ils ne viennent d'autant moins qu'on a, nous, Éducation nationale, un peu trop tendance à convoquer beaucoup plus qu'à inviter et à travailler de façon, encore une fois, confiante avec les parents. Mais c'est un vrai sujet et s'agissant des familles en très très grande difficulté sociale, c'est un sujet dans le sujet. Bien sûr. Mais on voit bien que, ici ou là, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même quantité de choses intéressantes qui se font sur le terrain, avec des écoles où les parents, je ne dis pas, sont chez eux, mais presque. Et c'est pas seulement la salle des parents, hein, on commence à faire des salles, des locaux pour les parents, c'est pas seulement le café des parents que quand on le fait de façon mécanique ça marche pas, mais on voit bien que dans certains endroits il y a une vraie ouverture, une vraie générosité, une vraie écoute mutuelle, quand des familles ont la possibilité de venir une fois par mois s'asseoir au fond de la classe et participer à des activités avec leurs enfants. Je peux vous dire qu'on, là, on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes et les choses changent très, très vite. Alors, c'est un exemple. Il y a quantité d'autres exemples.
Oui, Daniel Chiriconi, des Franca. Je fais le lien entre vos interventions et un atelier de la journée où j'ai participé sur les questions d'évaluation. Alors, je retiens qu'une des entrées principales d'organisation du système devrait être la volonté de démocratisation. Quand on ramène au PEDT, on se posait la question tout à l'heure, évaluer comment, évaluer quoi, évaluer pour qui et à quel niveau. Beaucoup de PEDT mettent en avant, dans leurs objectifs, les questions de la réduction des inégalités. Pour le cas Lyon, par exemple. Hein, mais quand on s'interroge après sur la façon dont la mise en place du système, du PEDT en lui-même, est favorable ou au contraire défavorable à l'objectif cité en début de réduction des inégalités, que ce soit entre les individus ou entre les territoires, il y a effectivement une vraie difficulté. Alors, à la fois faire la liaison entre les deux, et quand on en discute, que ce soit au niveau des acteurs ou des élus, c'est pas si évident que ça. Et puis après, c'est aussi très difficile de trouver des moyens, des processus d'évaluation qui vont permettre de mesurer dans quel sens on va. Autrement, bon, on va peut-être pas attendre 1937, mais s'il faut attendre le temps d'une génération pour, c'est à peu près l'unité de temps en éducation, pour mesurer les effets de ce qu'on a fait, ça risque d'être un peu compromis. Donc, voilà, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'avancer dans ce sens-là pour rendre plus... Alors, merci pour le rapport, parce qu'il le permet, pour rendre plus évident ce type de questionnement-là.
Bah, moi, je vais presque un petit rebondir là-dessus ou sur une chose que disait Jean-Yves tout à l'heure. Moi, je me demande s'il n'y a pas vraiment une question, par exemple, par rapport à la politique d'innovation de la maison. Enfin, je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Yves tout à l'heure. Pour ma part, je pense qu'on a globalement dans cette maison, mais pas uniquement d'ailleurs dans la Maison Éducation Nationale, une politique d'innovation dont le fin mot est de dire « si vous faites différent, c'est vachement bien ». Ce qui veut dire qu'à la fois, on ne s'intéresse pas à la finalité du différent, je renvoie à ce qui vient d'être dit, on ne se pose pas le problème du critère du différent, et puis qu'on ne se pose pas non plus une autre question, qui est qu'après tout, qu'il y a des gens qui ne font pas différent, mais ça marche très très bien là où ils font avec les gens qu'ils ont en face d'eux. Et ça, je crois que c'est une véritable question. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il faudrait reposer complètement le problème des finalités de la politique d'innovation, où on encourage, bon, je vais être un peu méchant, mais par moments je dirais tout et n'importe quoi, sous prétexte que c'est différent, sans jamais véritablement se poser la question des finalités, notamment d'un certain nombre de critères tels que celui qu'on vient d'évoquer. On n'est pas absolument obligé d'attendre 37 ans pour constater que telle ou telle façon de faire, si je peux dire, ou telle pratique va plutôt rencontrer de l'écho, j'emploie des termes extrêmement prudents, vis-à-vis d'une partie, plutôt en direction de telle ou telle partie de la population plutôt qu'une autre. Ça, je crois qu'il y a une vraie question derrière ça qui, à mon avis, a été complètement maltraitée au cours des dernières années. Les dernières années, ça fait un moment. Hein.
Oui, enfin, moi, je partage ce que vient de dire Jean-Claude. Je pense qu'on est victime d'une conception de l'innovation sur le modèle du rapport à l'école des classes moyennes cultivées. Je le dis assez brutalement. Et ça, ce qui ne se pose pas suffisamment la question de quels sont les effets. D'abord, contre quoi veut-on innover ? Et quels sont les effets des dispositifs ou des manières de faire que l'on promeut ? Et, voire même, qu'est-ce qu'on promeut quand on promeut ce qu'on promeut ? Ce qui est pas tout à fait... Ce qui m'envoie à l'autre question. Je pense que, avant même que d'évaluer les effets, si on se donnait les moyens de décrire ce qu'on fait. Et de décrire ce qu'on fait avec qui. Parce que quand on observe du quotidien de classe ou du quotidien de projet, c'est notre boulot de chercheur quand on passe beaucoup de temps dans des classes, et qu'on a le luxe de ne pas conduire la classe ou le projet. Donc on a tout loisir, au sens de l'étude, de se poser des questions que l'enseignant ne peut pas se poser, parce qu'il, l'animateur du projet, parce qu'il a la charge de la conduite. Ben, on peut observer quand même des modes de gestion qui différencient, souvent à l'insu de tout le monde, et parfois sans empêcher la satisfaction de tout le monde, qui différencient de manière socialement très inégalitaire les univers de tâches et de savoirs offerts et fréquentés par les élèves ou par les jeunes dans un certain nombre de dispositions. Donc moi, mon souci en tant que chercheur, c'est certainement pas de me positionner comme pseudo-expert susceptible de dire aux autres comment ils doivent travailler, mais par contre de dire que si on a le souci de penser la question des inégalités, eh bien il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut être attentif dans la conception, la régulation, la description et éventuellement l'évaluation de ce qu'on fait. Et ça, c'est pas très coûteux. Alors, c'est des questions de formation, c'est des questions de préoccupation politique, et c'est des questions, effectivement, de conception, de si on dit qu'il est nécessaire de modifier le type de fonctionnement du système éducatif et les pratiques professionnelles qui vont de l'ordinaire de la classe jusque à la conception des réformes et à l'écriture des circulaires, l'innovation ne peut pas être pensée sur le modèle qui vient immédiatement comme s'imposant comme le plus évident et le plus attractif pour les classes moyennes cultivées. Et ça, c'est des questions de formation. On peut, par exemple, s'intéresser à la formation disciplinaire des enseignants du premier degré dans les différentes disciplines qu'ils ont la charge d'enseigner. C'est un vrai problème. Et aux habitus qui les portent à s'inscrire trois fois plus dans des projets ou dans des stages de formation continue, quand il y en avait, sur les arts plastiques, et j'ai le plus grand respect pour les arts plastiques, que sur l'éducation physique sportive, la culture scientifique et technique. Donc là, il y a des choses qui, et en termes d'outils d'évaluation, c'est se demander, par exemple, il y a des collectivités territoriales qui se posent la question, évidemment, en disant, voilà, on promeut un certain nombre de projets qu'on offre aux collèges, mais quels sont les collèges qui s'en saisissent? Et pour quelles classes? Pour quels élèves? Et qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'on peut se satisfaire de rapports d'activité qui ne posent pas, dans le rapport d'activité, les questions posé par l'objectif de démocratisation, si on affiche l'objectif de démocratisation? Moi, je crois que si on a peut-être des choses à dire, c'est de dire que la vigilance doit être permanente sur ces questions-là, non pas la prescription.
Je ne voudrais pas qu'on ait l'air de se renvoyer des amabilités, mais ce qui est très important dans les travaux de Joël Rochex, et j'y fais allusion dans mon rapport, c'est l'invitation qu'il nous fait à ne pas faire un lien d'automaticité entre innovation et démocratisation de la réussite. Ça, c'est absolument essentiel. Et ça, c'est d'autant plus important que ça pourrait nous permettre, hein, si on entrait dans cette logique-là, de dépasser ce qui est le sport national dans notre pays, qui est le combat, faux combat entre les pédagogues et les républicains. C'est-à-dire que si supposé républicain et supposé pédagogue, vous avez raison, si on arrivait à dépasser ce débat, on pourrait très bien considérer que, eh bien, observons effectivement l'évolution d'une pratique pédagogique dans un établissement, cette évolution favorise-t-elle, oui ou non, la démocratisation de la réussite scolaire? Si c'est un travail de groupe organisé de telle et telle manière, eh bien on y va. Et ça, c'est pas faire de la pédagogie ou du pédagogisme. Si, dans certaines conditions, on voit bien la nécessité pour un élève d'apprendre ses leçons, d'entrer dans des routinisations, c'est-à-dire de faire des exercices, eh bien ça, si ça améliore la démocratisation de la réussite scolaire, ça n'est pas être républicain, rétrograde, c'est améliorer la réussite des élèves. C'est-à-dire que C'est un peu la même chose s'agissant des manuels scolaires. Vous y avez fait allusion. Hein, le chercheur auprès de vous qui travaille là-dessus, c'est Stéphane Bonnery. Il a fait un travail vraiment remarquable, justement, sur les manuels. Moi, j'ai été professeur d'histoire-géographie. Et c'est vrai que les professeurs ne sont pas suffisamment formés au choix de leurs outils pédagogiques et notamment du choix de leurs manuels. Et c'est vrai que si on n'y fait pas attention, on ouvre actuellement quelques manuels d'histoire, on voit qu'ils sont très agréables. Hein, il y a des photographies, il y a des documents. Et puis finalement, on s'aperçoit de quoi ? Que ce qu'il y a à retenir au bout du compte de la leçon, c'est très très peu de choses écrites tout en bas quand c'est écrit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à l'élève, hein, le soir, avec sa famille, de reconstituer le fil de la leçon et de mettre lui-même en rapport les différents documents, parce que le professeur n'a peut-être pas eu le temps de faire ça de façon complète dans son cours. Et donc là, on a effectivement des manuels scolaires qui ne sont c'est un peu des manuels, ce que vous avez, je reprends votre propos, les classes moyennes cultivées qui, elles, savent utiliser ce genre de documents, mais qui mettent en difficulté assez importante les autres.
Oui, Hélène Mathieu, Ville de Paris. Je faisais allusion dans l'atelier qui précédait, enfin, un des ateliers qui précédait, à un de vos étudiants, Thésar, qui travaillait avant même l'aménagement des rythmes éducatifs, puisqu'on a appelé ça comme ça à Paris depuis le début, sur y a-t-il un impact sur la réussite scolaire des gamins, des élèves, quand il y a une corrélation ou une continuité pensée, enfin je le dis dans mes mots, moi qui ne sont pas les vôtres ni les siens, mais enfin, en gros c'est ça que j'avais compris, entre les enseignements, le temps scolaire et les activités périscolaires. Alors la thèse n'est pas rendue, on va voir ça cet automne. Ce qui est un peu désespérant, c'est que ce qu'il a constaté, c'est qu'en fait, visiblement, le dialogue passait vraiment très 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 difficilement entre les enseignants et la sphère animation. Donc, bon. Mais sur le débat qui vient de s'engager là, je pense que plus il y aura de travaux de thèse dans ce sens-là, plus ça nous aidera. Moi, je suis un peu réservée sur ce qui vient de se passer, ce qui vient d'être dit. J'ai qu'une idée extrêmement modeste que, quand j'étais ville de Paris, là, aux affaires scolaires, j'ai essayé de mettre en place pour l'animation, et je pense que si j'avais été à l'éducation nationale, j'aurais essayé, coûte que coûte, de le mettre en place. En tout cas, c'est ce que je faisais quand j'étais prof d'école normale dans des temps immémoriaux, en français. Si l'enseignant, l'animateur, la SEM, exactement comme le parent, ce que je vais dire ne va pas casser les briques, hein, est capable de prendre un tout petit temps pour faire dire à l'enfant ce qu'il a fait, ou à l'élève, et pour dire le sens de ce qui vient d'être fait. C'est exactement ce que tu viens de dire sur les manuels. C'est quand même le boulot du prof, excuse-moi, de dire le sens de ce qu'il fait. À ce moment-là, il y a une verbalisation qui commence, mais sur des choses très infimes, minuscules. Mais l'enfant peut s'approprier le truc et peut le dire. Et tous les échecs qu'on a avec les gamins en difficulté, c'est l'absence de maîtrise de code. C'est ce contre quoi on se bat depuis des années et des années. Donc, est-ce qu'on ne peut pas commencer dans la modestie? Et simplement, moi, j'avais cru à un moment, au moment de la refondation avec Payon, que vous alliez imposer ça à la fin de chaque journée. J'avais entendu ça quand même, hein, dans les propositions, je me souviens de ça. Donc moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et je l'ai fait à Paris sur la réforme des rythmes. Mais nous on n'est que collectivité territoriale, c'est que deux soirs par semaine, machin. Si simplement, au lieu de se gargariser en disant le chef d'établissement, premier pédagogue de l'établissement au collège et au lycée, bah oui d'accord. Et puis on constate en terminale, quand on fait des... J'avais fait ça quand j'étais à l'inspection générale de l'éducation nationale, aux enseignements artistiques, que les élèves ne savent absolument pas faire le lien entre ce qui se passe en maths, ce qui se passe en philo, en physique, etc. C'est quand même affolant, quoi. Et je sais pas, j'ai tout à fait conscience de dire un truc très, 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 très basique, hein. Mais peut-être que ça commencerait comme ça, dire ce qu'on fait. Et donc, du coup, bah, juste ma proposition, c'est nous, on a travaillé sur dire avec les animateurs et les ASEM quel était le métier, quelles étaient les valeurs, qu'est-ce qu'on voulait faire, ce qui n'était déjà pas une partie de plaisir, parce que dans le secteur de l'animation, ceux qui viennent d'éducation savent très bien que c'est très difficile de mettre des mots sur ce qu'on fait. On préfère faire plutôt que dire pourquoi on le fait. Mais on a abouti à une charte, et j'avais rêvé, travaillé d'ailleurs, à un texte commun avec le rectorat, avec les organisations syndicales enseignantes et de l'animation sur, ben, finalement, même si on a des métiers, des formations, des propos différents, ce qu'on cherche ensemble, c'est. Ce texte est à disposition.
Une réponse finale
pour... Juste, pas une réponse finale, mais, ou peut-être pour le temps, mais pour aller un petit peu dans le sens de ce que vient de dire, il y a des choses très simples à faire. Alors, ça ne veut pas dire que tout est soluble dans du très simple, hein, parce que, parce qu'il y a des enjeux de savoir compliqués. Alors, y compris les enjeux de savoir qui nous paraissent les plus simples, ils sont très compliqués. Voilà. L'addition, c'est quelque chose qui est compliqué. L'addition, ce n'est pas simplement ce qu'on fait quand on a une quantité qui s'accroît, ce que croient la plupart des élèves. Il y a des tas de situations contre-intuitives par rapport à ça qui nécessitent de mobiliser un paradigme additif. Donc, et ça, c'est, dans la formation des enseignants, en particulier du premier degré, c'est un vrai problème parce que le rapport aux mathématiques est souvent très problématique de par leur biographie professionnelle. Mais une question qui est très simple à systématiser, c'est de faire réfléchir les élèves ou les enfants, mais sans doute aussi les enseignants ou les professionnels, sur la distinction entre qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a appris. Ben, ça a l'air tout simple, ben, je peux vous dire que ça a des effets. Par exemple, il y a deux collègues, Jacques Crinon et Caroline Schepers, qui ont instauré dans des pratiques de classe avec des enfants, des adolescents, des adultes, un dispositif qu'ils appellent le journal des apprentissages, où il s'agit de demander aux apprenants, comme on dit aujourd'hui, d'écrire en fin de journée, de tenir le journal de leurs apprentissages. Et alors, ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'avec une consigne très basique, bah, sur l'année, on voit des évolutions considérables où les premières écritures des élèves, c'est le journal des apprentissages, c'est le journal des même pas des activités, mais des tâches. Hein, on a fait, ou éventuellement des étiquettes, voilà, on a fait des maths, on a fait, etc. Et puis, au fur et à mesure de l'année, parce que le dispositif est exigeant dans sa régularité, eh bien, on voit se construire la différence entre qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris. Voilà. Déjà, rien que cette question-là, si on la pose de manière persistante, récurrente, insistante, et si on se la pose également, ouais, de la même manière que quand on fait travailler, parce que ces questions-là, on les retrouve à l'université, hein. Je veux dire, moi, j'ai des étudiants qui, quand on leur fait lire des textes, ils commencent par dire « ça parle d'eux ». Et moi, j'ai instauré une consigne, c'est « il est interdit de dire de quoi ça parle ». La question que je vous demande, c'est de demander « qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait un texte théorique ?» Ben, ça déplace, alors je ne fais pas de miracle, hein, ça serait, mais ça déplace un petit peu les choses. Vous voyez, donc il y a la vigilance, ce n'est pas forcément des grands dispositifs, etc. Mais alors, évidemment, après, la différence... Ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, ben, ça se construit en formation et ça se nourrit si on est en philo ou si on est sur l'addition à l'école élémentaire, évidemment.
Bon, merci pour ces éléments très, très importants. Bon, je pense qu'on poursuivra le débat et l'échange.